Aquí, Andrés de Guzmán, educación oriental. Le repito tan más que
quisiera. Porque
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs de ce jeudi 12 septembre 2010. Et comme d'habitude, nous évoquons avec vous des sujets qui préoccupent la vie de tous les jours. Cette émission est consacrée au secteur de la santé et nous parlons des avortements provoqués et clandestins. D'après le Programme national de santé de la reproduction, les avortements clandestins provoqués touchent 30% des filles de moins de 20 ans en RDC. Et l'Organisation mondiale de la santé indique qu'environ 300 000 femmes meurent chaque année en Afrique des suites des avortements provoqués clandestins. Dans la plupart des cas, ces avortements sont pratiqués dans des structures médicales de fortune, un personnel non compétent, et plusieurs fois cela entraîne la mort des victimes. Et pendant ce temps, les auteurs sont soit appréhendés ou soit disparaissent dans la nature. Et pourtant, l'article 16 de la Constitution de la RDC consacre la sacralité de la vie et l'obligation qu'a l'État de la respecter et la protéger. Et l'article 61.1, c'est le point insupportable qu'il ne peut être dérogé au droit à la vie et plus loin, en application de ce principe, l'article 211 de la loi numéro 710-17-10 portant code de la famille disposait que toute personne jouit des droits civils depuis sa conception. Cette situation nous vous intéresse peut-être que cela s'est déjà déroulé une fois dans votre quartier, nous en parlons avec vous. Mais dans cette émission, nous avons une seule question, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cette pratique? Nous recevons dans ces studios Dr Solange Londo. Docteur, vous êtes gynécologue, bonjour.
Bonjour.
Et Marie-Chantal Lumba sur la réalisation de cette émission, assistée de Nicole Ngaka, Alain Goy et à la mise en onde, Pierrot et la Mégie devant ses micros pour la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour à tous et bienvenue à tous. Nous parlons des avortements, entre parenthèses, j'insiste bien, les avortements clandestins. C'est ce qui nous préoccupe dans cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces avortements? Nous avons Bwana Masala qui nous écrit des Kamina au Katanga. Elle dit ceci: pour lutter efficacement contre les avortements provoqués clandestins, il faut réglementer la vente des produits contraceptifs dans des pharmacies, ça c'est son avis. C'est-à-dire ne plus vendre les produits, réglementer la vente des produits abortifs, et on ne peut le vendre un produit que sous ordonnance médicale. Il faut également punir sévèrement les personnels médicaux qui pratiquent ces avortements. Docteur Solange, bienvenue au studio de Radio Capi.
Merci.
Avant de commencer, pourriez-vous aider les auditeurs à comprendre il y a combien de types d'avortements? Parce que là, nous parlons aujourd'hui des avortements clandestins, provoqués clandestins. Oui. Mais d'une manière générale, en médecine, il y a combien de sortes d'avortements?
D'une manière générale, il y a deux types d'avortements. Il y a l'avortement spontané, c'est-à-dire c'est une perte de grossesse qui vient spontanément, sans intervention quelconque de l'extérieur. Et il y a l'avortement qui est dit provoqué, comme vous l'avez dit, dans l'avortement, l'un commence. L'éruption de la grossesse qui survient suite à l'intervention extérieure et par le désir de la personne qui porte cette grossesse. Donc, c'est pourquoi il est mieux indiqué de parler de l'interruption volontaire de la grossesse.
Voilà, mais cette interruption volontaire, et là, il paraît qu'il y a aussi un sous-groupe qu'il faudrait utiliser.
Ouais.
L'interruption volontaire autorisée, si on peut le dire, et l'interruption volontaire clandestine.
Non, l'interruption volontaire de la grossesse ne peut pas être autorisée. Donc, il y a les interruptions thérapeutiques de la grossesse, et les interventions et les interruptions volontaires. Donc là, il y a deux catégories.
Voilà, thérapeutique, c'est-à-dire que le médecin...
C'est-à-dire qu'après consensus d'une équipe multidisciplinaire, hein, c'est-à-dire pas seulement le gynéco, mais il y a aussi le d'autres médecins, ils peuvent intervenir, hein, tels que le pédiatre, tels qu'un cardiologue, si la femme est malade de cœur. Hein, donc, suite à un consensus d'une équipe multidisciplinaire, on a décidé d'interrompre l'évolution d'une
grossesse.
Et ça se fait dans un milieu hospitalier, et puis avec toutes les précautions d'usage. Donc, on prend toutes les précautions.
C'est-à-dire que, en termes plus techniques, vous parlez de l'interruption thérapeutique.
L'interruption thérapeutique, les IT, comme on dit.
Voilà. Mais en revenant maintenant à notre sujet, parce que nous, on parle plus de
cette interruption volontaire et clandestine. Comme
voilà.
Vous le dites, donc involontaire et non autorisé.
Non autorisé, s'il faudrait utiliser le terme.
Ah.
Est-ce que vous vous rendez compte que dans la société congolaise, ces types d'interruptions volontaires des grossesses sont une préoccupation?
Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons des choses statistiques qui sont très alarmantes, vous les avez dit. Il y a au moins 14% des femmes qui meurent suite aux complications des avortements clandestins, comme vous le dites.
14%.
Donc 14% des femmes.
Et
que ce soit jeune femme ou bien
femme
âgée, tout ça. Donc en général, parce que ce n'est pas qu'une affaire de choses jeunes femmes, il y a aussi des femmes âgées, mariées, tout ça qui sont aussi victimes, hein, ce genre de choses pratiques. Donc c'est un problème sérieux de la santé publique.
Voilà. Avant de prendre aussi les auditeurs, parce que nous allons ensemble avec eux, hein, ils vont aussi témoigner de nous aussi leurs propositions. Il y a Francis qui nous appelle des Gaumont. S'il faudrait parler en termes des causes de ces avortements, hein, plus les avortements clandestins, parce que c'est ça la grande préoccupation. Aujourd'hui, et quand vous êtes dans le domaine, vous êtes sur terrain, quelles sont souvent les causes qui amènent le jeune fille, tout comme le maman, les femmes mariées, à ces pratiques?
La première raison, la première motivation qui pousse une femme à se débarrasser d'une grossesse, je pense, c'est d'abord le non-désir de cette grossesse. La femme se retrouve enceinte sans avoir désiré de l'être. C'est une grossesse dont elle ne veut pas, hein, elle peut décider de s'en débarrasser. Il y a aussi le fait de ne pas être bien informée sur les pratiques sexuelles, donc sur les relations sexuelles. Donc, certaines jeunes filles sont surprises par des grossesses. Elles se lancent dans une vie dont elles ne connaissent pas les tenants, les aboutissants, et puis elles sont surprises par une grossesse. Et il y a aussi le manque d'information. Le manque d'information déjà dans la cellule mère, c'est-à-dire au niveau de la famille. On n'en parle pas, c'est un tabou, on est là que pour réprimer, pour mettre en garde, gronder et tout. On ne donne pas l'information qu'il faut aux enfants, et les enfants sont surpris par la survenue des grossesses. Il y a aussi la peur. La peur du qu'en dira-t-on, la peur de réaction des autres, surtout des parents pour les jeunes filles, la peur d'être mère, donc on n'a pas assez de moyens d'assumer, ça peut pousser les jeunes filles surtout à se débarrasser de ce produit. Et il y a aussi l'oreiller du partenaire. C'est-à-dire une femme qui a eu une relation normale avec un homme, peut-être qu'elle est mariée, mais quand la grossesse survient, il y a des problèmes dans le couple, hein, le divorce, le mari qui nie la grossesse, des trucs comme ça. Ça peut pousser une femme à vouloir s'en débarrasser.
Voilà, merci. Voilà, Francis, vous êtes à Gaumont, bienvenue à Bounia. On va vous prendre après quelques fichiers de secondes.
Parole aux auditeurs.
Francis, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Goma, au Nord Kivu. Nous parlons de ces problèmes des interruptions volontaires de la grossesse. Mais nous voulons plus mettre l'accent sur ce qui s'est fait clandestinement, parce que vous avez déjà entendu parler de ça et toutes les conséquences qui en découlent, n'est-ce pas? Et à Goma, parlez-nous un peu. Est-ce que vous connaissez aussi des cas comme ça dans la société là où vous êtes sur place?
Oui, il y a des cas comme ça dans nos milieux, sauf que ceux qui se spécialisent dans ces pratiques les font d'une manière aléatoire. Il y a d'ailleurs des morts qui s'en suivent.
Pratiques aléatoires avec la mort, oui.
Je crois que je ne sais pas pourquoi le législateur congolais n'essaie pas légaliser ça, parce que c'est aussi parmi les droits dans certaines autres régions.
Vous pensez que pour combattre cela, il faudrait qu'il y ait une légalisation de l'interruption volontaire de la grossesse, c'est ça?
Oui, qu'il y ait une légalisation, que cela se passe chaque fois dans des milieux où c'est reconnu, au lieu de faire ça clandestinement, occasionnant des morts, des personnes.
Mais en dehors de ça, est-ce qu'à Goma, vous pensez que si on légalise, ça va mettre fin complètement, ou bien il y a d'autres choses qu'il faut aussi ajouter à cette légalisation?
Bon, à part une légalisation que je réclame, je crois qu'il faut aussi une sensibilisation pour parler à certaines femmes que ce ne sont pas des bonnes pratiques, même si on doit légaliser ça. Il ne faudrait pas que ce soit une habitude pour chacune d'elles.
Voilà. Merci Francis, vous êtes à Goma. Nous allons à Bounia, en province orientale. Bienvenue, vous êtes en ligne, bonjour.
Merci, bonjour M. Delis.
Et vous, qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre cette pratique bienvenue?
Merci, j'essaie d'abord tous les étudiants de l'UGST Salam de Bounia, y compris aussi les universités du jour, et pourquoi pas tous les étudiants de la radio-pratique.
Merci.
Et pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces comportements? Moi, je suggère tout simplement que les autorités administratives, ensemble avec les acteurs de la santé, qui se pensaient que par une utilisation si élevée qui peut être faite par n'importe quel moyen, dont il faut expliquer aux concernés les conséquences néfastes qui peuvent en découler s'ils arrivent, par exemple, à faire autre chose de ce comportement.
Voilà, merci. Vous êtes à Bounia, en province orientale. Je crois Radio Capier suivi sur 54.9 MHz. À Kikwit, c'est Arsène qui est en ligne. Arsène, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Vous venez de suivre Francis de Goma qui pense qu'il faut la légalisation de l'avortement. C'est peut-être un terme que tout le monde peut comprendre. Mais au-delà de cela, bienvenue de Bounia pense qu'il faut beaucoup plus de sensibilisation multidisciplinaire, s'il faut dire, hein, le pouvoir public, le corps médical, et cela peut aider à lutter contre la pratique de l'interruption clandestine de grossesse. Vous, quel est votre point de vue, Arsène?
Ok, merci beaucoup pour la parole que vous venez de m'accorder. Bon, je passerai d'abord par saluer tous les auditeurs et la garde présidentielle qui est à Kikwit, parce que nous attendons
chaleureusement le chef de l'État. Voilà.
Merci beaucoup. Mais pour ce qui concerne un autre sujet, comment, moi je me pose la question, comment ça peut-il se faire qu'un être puisse être officialisé? On ne peut pas officialiser un meurtre, l'avortement c'est un meurtre pur et simple. Malgré les explications que les médecins essaient un peu de donner, mais la mort d'un enfant, celui qui naît dès la conception, c'est un Congolais, comme tout autre Congolais, et il a tous les droits d'être protégé. Alors, moi je dirais ceci, au lieu de passer plutôt aux opérations cherchant à nous cacher derrière la loi, derrière tout consort, je préférerais bien qu'on essaie un peu de toucher sur l'éducation de la femme. La fois passée, nous avons parlé sur le sida, la femme était majoritaire. Aujourd'hui, nous parlons sur l'avortement, c'est toujours la femme. Et la femme, c'est le noyau. Nous devons essayer plutôt d'éduquer la femme pour qu'elle comprenne quelle est son importance dans la nature. De là, je crois que la femme comprendra qu'il faut qu'elle se discipline, qu'elle puisse discipliner à sa vie sexuelle, et que la femme puisse apprendre, parce que c'est souvent les mamans qui apprennent aux jeunes filles, c'est que c'est la vie. Alors, dès l'âge de 10, 11, 12 ans, que la maman, qui est la femme elle-même aussi, commence à apprendre à son enfant, voilà le danger, voilà les relations sexuelles, ça veut dire quoi, voilà le danger que vous devez courir, parce que de là, vous avez des grossesses, et le rapport, comme le tabou que nous avons sur la grossesse hors mariage, là, elle est bousculée de tous les parts, avec ses amis, en famille, partout, elle est bousculée. Alors, elle peut aller trouver n'importe qui pour se faire avorter et c'est la mort qui en suit. Moi, je dirais qu'on passe sur l'éducation de la femme, on insiste là-dessus.
Voilà, et Arsène, mais alors, dans tout ça, quel est le rôle de l'homme? Parce que s'il y a des grossesses, c'est la femme, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule actrice dans cela. Et quel est le rôle que l'homme doit jouer dans cette éducation?
Ok, merci. L'homme, c'est la discipline. L'homme, c'est... Quand l'homme est arrivé, super, c'était pour mettre une certaine discipline. Alors, l'homme vient de la femme. Comme l'homme vient de la femme, l'homme doit savoir protéger la femme. Si aujourd'hui, moi, j'intervenais, si c'est pour protéger la femme, monsieur. Voilà le rôle de l'homme, protéger la femme, l'entraîner dans la bonne ligne de conduite.
Merci, Arsène. Docteur Solange, je venais de suivre le premier groupe d'auditeurs. Il y a Francis qui pense qu'il revient sur la légalisation. Abouni, c'est plus la sensibilisation. Arsène, lui, pense que la légalisation, cela veut dire, sur le plan de notre constitution, c'est meurtre, officialité, un meurtre. Mais il faut plus mettre l'accent sur l'éducation. Comment on peut cheminer avec toutes ces idées?
Avec ces idées, moi, je pense que pour celui qui a pensé qu'il faut la chose, légalisation, je me dis, même si on autorisait cet acte, ces avortements sont faits d'abord par des mains qui ne sont pas experts. Ok? Ils sont faits dans des centres où toutes les mesures d'assécie, donc d'hygiène, de propriété, tout ça, ne sont pas respectées. Alors, on va légaliser avec quel instrument de travail? Ok, donc parce qu'on voit que dans ce nombre de femmes qui sont touchées, le plus de femmes meurent des infections. Ok, donc qui sont des conséquences des moyens qui sont pas qui sont pas propres, qui sont pas aseptiques. Donc on va légaliser pour utiliser qui? Comment, où, donc il y a encore d'autres problèmes, il y a beaucoup d'autres problèmes
qui sont liés
que cette légalisation peut amener. Moi je pense que la légalisation c'est agir au bas de l'échelle, donc agir donc après d'autres mesures. Mais je suis plutôt de l'avis de deuxième candidat qui a parlé de la sensibilisation. Moi je pense que dans toute lutte, on doit commencer par la sensibilisation, c'est-à-dire l'information. On doit commencer à informer. Pas seulement la jeune fille quand elle a 12 ans. On dit que l'éducation commence au berceau. On voit qu'aujourd'hui, la famille n'existe presque plus.
Voilà.
L'autorité parentale n'existe plus. L'éducation de la famille, ça n'existe plus. Il faut commencer d'abord par restaurer la force de la cellule de base de la société qui est la famille et que la sensibilisation commence au niveau de la famille, que la maman, que le papa comprennent. Ok, l'avortement, c'est un meurtre, c'est vrai, parce que notre constitution garantit la vie dès sa conception. Donc, si aujourd'hui on disait qu'on commence à mettre fin à la vie, ça va un peu à la contre de commencer que l'on a dit avant dans notre constitution. Donc, éduquer pas seulement la femme, l'homme aussi, parce que la grossesse n'est pas affaire de femme seulement, c'est l'affaire de couple, donc couple qui veut dire homme-femme, éduquer autant l'homme que la femme.
Voilà.
Que les deux se mettent ensemble pour lutter contre ce fléau.
Mais il y a aussi les astures dans cette pratique, ce sont les corps soignants eux-mêmes qui pratiquent, parce qu'il y a aussi là, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'ils font prendre en compte. Quand les gens vont à l'école pour apprendre la médecine, que ce soit les infirmiers, que ce soit les médecins, tout ce qui touche au corps humain, je pense qu'il faudrait aussi qu'on mette l'accent sur cela. Parce que la plupart des cas, toutes ces pratiques sont entre les mains des corps soignants. Mais quel est le travail qui doit être fait en amont du côté de pratiquants eux-mêmes?
Du côté de pratiquants, je pense que lorsqu'on sort de l'école de médecine, de l'université, on est bien conscient, on sait que l'avortement n'est pas autorisé, on sait que l'avortement, c'est un acte qui est réprimé par la loi, on le sait. Ok. Moi, je pense, au lieu de voir du côté du corps soignant, parce que je vous dirais ici que tous ceux qui pratiquent l'avortement ne sont pas du corps médical. Ne le sont pas. On a vu des charlatans tout à fait qui n'ont rien à voir avec la médecine. Les sciences infirmières
qui font avaler
n'importe quoi. Donc, ce n'est pas l'affaire du seul corps médical, mais je pense que on doit agir en amour. Vous savez, lorsqu'une fille ou une femme a décidé de se faire avorter, je vous dis, elle va aller partout, elle va aller où, partout où elle pourra trouver solution. Vous pourriez refuser, mais elle va aller voir quelqu'un d'autre, jusqu'à tomber dans les mains de quelqu'un qui n'a rien à voir avec la science médicale. C'est qu'il faut, moi je pense, il faut agir au niveau de la personne concernée, c'est-à-dire de l'homme, hein, de la femme et de l'homme, sensibiliser sur les rapports sexuels, sur la prévention de la grossesse, parce que la prévention de la grossesse existe. La prévention de la grossesse existe. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on a des rapports sexuels, on va tomber enceinte. Il y a la prévention qui existe.
C'est ça le grand travail
qui doit être fait. Et chaque corporation lutte avec les moyens qui lui sont propres, qui lui sont accessibles. Les églises diront abstinence, tout ça, fidélité, mais le médecin a les moyens contraceptifs, qui commencent par les moyens de barrière. Hein? Condom existe, ok. Hein? Le condom existe, le préservatif existe, il y a la pilule, il y a toutes les autres méthodes qui peuvent être utilisées pour éviter la grossesse.
Voilà, Maurice, vous êtes à Béni, docteur Léon Aïtissa Kinshasa. On commence avec vous, Maurice, vous êtes en ligne, bonjour. Maurice, vous êtes en ligne.
C'est pas tous les auditeurs de la radio.
Voilà. Vous avez suivi les uns et les autres. Nous parlons de ce qu'il faut faire pour lutter contre les interdictions clandestines de grossesse, comme on l'a dit, pour utiliser les termes que tout le monde peut comprendre. Alors, vous, au niveau des bénis, qu'est-ce que vous proposez pour que nous ne puissions pas connaître des cas qui ont été aussi répertoriés ailleurs, comme on l'a dit à l'introduction de cette émission?
Vraiment, merci Pierrot, un grand sujet que nous sommes en train de connaître vraiment ici, un grand problème en Dieu de Béni pour les problèmes de grossesse et consorts. Mais sinon, le grand problème, ce que je voulais ici proposer, c'est d'abord l'information de la pratique sexuelle au niveau des pages, au niveau de la famille. Vous savez, on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une
nation. Voilà.
Et à chaque action suscite une réaction. L'éducation de la famille, les parents. Je pense que, donc, ce que nous sommes en train de connaître ici chez nous au Congo, l'éducation, c'est comme si quasi inexistante. Parce qu'en Europe, je me souviens, lorsque j'étais en train de suivre un journal, lorsque les garçons étaient arrivés à l'âge de 12 ans, et les filles étaient au niveau de l'âge de 10 ans, la maman a pris le temps de prendre les enfants-filles, les préventifs étant de prendre des enfants, garçons, et leur montrer l'âge qu'ils ont, les conséquences qui peuvent découler des pratiques qu'ils peuvent faire sexuelles, ce qui ça peut donner, vous voyez. Donc là, on est sur l'enfant est détruit, les filles sont détruites à la maison, à partir de la maison, et l'éducation ça continue au niveau de l'école. Qu'est-ce que les écoles donnent comme éducation sexuelle? Il y a presque, si vous voyez, par exemple, sur les programmes nationaux, il y a presque pas des cours qui donnent l'éducation sur les classes sexuelles. Pourquoi ça devient un tabou? On m'a dit aujourd'hui, c'est là où c'est les derniers où les gens pouvaient trouver de l'éducation suffisante pour comprendre, pour éradiquer des problèmes. Et puis, le deuxième problème que je voulais vraiment évoquer ici, c'est les personnes qui font ces pratiques-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de résoudre des problèmes de perte des nationaux, des filles qui meurent par-ci, par-là. Chaque jour, nous l'apprenons. Et surtout, avec une question des cas qui sont vraiment fréquents, messieurs les journalistes.
Voilà. Merci, Mauricio. Vous proposez, comme les autres auditeurs, qu'il faut plus la sensibilisation au sein de la famille. Mais là, vous ajoutez aussi un autre élément, c'est l'école. La sensibilisation ne doit pas seulement se limiter à la famille, mais l'école doit aussi jouer un rôle important dans l'éducation de jeunes hein, pour éviter d'arriver à tout cela. Mais vous avez aussi évoqué, en passant, le pratiquant. Merci de nous avoir appelé de Béni au Nord-Kivu. Revenez chez Kinshasa. Docteur Léon, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Vous, vous êtes gynécologue, mais là, vous avez une action particulière, c'est que vous travaillez plus dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles, de viols. Mais quand on regarde le protocole de Maputo qui a été signé, je crois, depuis 2003, la RDC l'a signé aussi. Ce protocole dit ici dans l'article 14.5, il faut protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, des viols, d'inceste, et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou de la vie de la mère ou du fœtus. Bon, si je peux vous faire intervenir sur ce qui concerne les cas des viols, est-ce qu'il vous arrive dans la pratique de tous les jours, comme vous travaillez dans la prise en charge de ces femmes, d'être en contact avec des femmes victimes de viols et qui, ces viols, ont conduit à des grossesses et des fois qui désirent s'en débarrasser? Est-ce que des cas comme ça, vous les croisez, docteur Léon?
Oui, merci beaucoup Pierrot et merci et je salue aussi tous les auditeurs de la radio Okapi. Je pense que dans les temps nous avons eu quelques cas au moment où nous commençons avec l'activité. Mais actuellement il y a évidemment ce que nous appelons la contraception d'urgence, la contraception de lendemain, qui se trouve dans les kits de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles et qui sont très efficaces. Et je pense que ce médicament aide suffisamment à éviter la grossesse. C'est ainsi que l'information doit circuler. Doit circuler parmi les femmes d'une façon générale, mais aussi à la base, dans des familles, dans des écoles, où on doit donner l'information suffisante sur la contraception de lendemain, donc comment éviter une grossesse si on est tombé victime. Et cette méthode n'est pas seulement utilisée pour les violences sexuelles, c'est une méthode qu'on peut utiliser, c'est une contraception d'urgence qu'on peut utiliser même dans un couple. Il n'y aura pas de danger. Donc je pense qu'il faut prévenir cela. Et si cela arrive, il faut donner le médicament à temps. Dans les 72 heures, la protection va au-delà même de 95%.
Et maintenant, là, concrètement, parce que le cas des interruptions clandestines qui nous préoccupent dans cette émission, on les répertorie assez, c'est inquiétant, avec tout ce qu'il y a comme malheur qui s'amène. Mais au niveau de la pratique, vous, en tant que médecin, quelles sont les mesures spécifiques qu'il faudrait aujourd'hui prendre, en cas, par exemple, dans notre pays, pour parvenir quand même à lutter contre ces pratiques, docteur?
Oui, en fait, on appelle l'avortement clandestin seulement parce que la loi ne permet pas qu'on puisse interrompre la grossesse. La loi congolaise ne permet pas qu'on puisse interrompre la grossesse. Mais dans certains pays, l'interruption de la grossesse avant 12 semaines est vraiment médicalisée et reconnue. Bon, c'est un problème d'éthique. Moi, je pense qu'avec la loi actuelle et ce que nous sommes en train de vivre, il serait mieux d'agir sur la prévention. Nous avons plusieurs méthodes contraceptives. Ces méthodes ne doivent pas nécessairement être utilisées dans le milieu médical. Ces méthodes l'information doit circuler partout. À l'école, dans les familles, dans les agglomérations des jeunes, on doit en parler parce que le problème est que chez nous, les gens pensent plus que les filles doivent rester vierges. Bon, en fait, et avec ça, on met les tabous autour
de tout ce qui touche.
Alors que ces filles apprennent à faire ces histoires-là sans, comme ils apprennent ça dans la rue, sans une bonne information, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit à l'école, ils apprennent mal, ils se cachent, ils ne savent même pas leur propre cycle, comme ça, à la fin, on peut tomber enceinte sans le vouloir. Mais si on avait vulgariser l'éducation sexuelle à la base, dans nos familles, dans nos écoles, dans les agglomérations des jeunes, je pense que on pouvait associer à cette éducation sexuelle les cycles de la femme. La fille doit se connaître et comment il doit éviter une grossesse non désirée.
Voilà, docteur, mais il y a aussi un problème qui survient, c'est dans un foyer, par exemple, un couple se rencontre que déjà là, il y a un problème, il y a une grossesse, et les deux, ils s'entendent, mais la femme dit on n'a pas assez de moyens, et l'enfant peut-être il est encore tout petit, il a 9 mois, 8 mois, et là, nous, on a un problème, et puis tous les deux se dirigent vers une structure médicale, consulter le médecin pour lui dire voilà, bon madame, elle vient d'avoir des problèmes, moi je ne suis pas en mesure de supporter, on a des difficultés financières. Et dans ces cas, comment on peut agir dans des cas comme ça? Parce que je me dis bien, ça arrive fréquemment dans la société.
Oui, ça arrive même dans ma propre carrière, ça m'arrive, ce problème d'éthique. Je voudrais un peu qu'on fasse une différence entre un animal et un homme
Mm-hmm.
Le rapport sexuel, c'est un animal qui est attiré par la chaleur. La chaleur signifie la période d'ovulation de la femme, de la femelle. Ce qui fait que c'est n'est qu'à ce moment-là que la femelle peut approcher le mâle.
Mm-hmm.
Mais ça, c'est très différent de l'homme. Nous devons différencier la sexualité de la fécondité. Nous pouvons faire des rapports quand nous voulons, sans qu'il y ait une grossesse. Donc cela revient encore à ce que je venais de dire, il faut que les couples puissent se connaître et qu'ils prennent leurs responsabilités sur le plan sexuel.
Mm-hmm.
Il faut vraiment avoir des rapports sexuels responsables.
Mm-hmm.
Parce que la femme ne tombe pas enceinte chaque jour. Et il y a des moyens, même ceux qui sont contre les moyens modernes,
mm-hmm.
il y a des moyens où on peut éviter la grossesse d'une façon naturelle. La femme doit se connaître, la femme doit savoir.
Mm-hmm. Mon
cycle va d'autant à autant. Je vais éviter les rapports sexuels pendant cette période, et en évitant les rapports pendant cette période,
voilà,
je vais éviter la grossesse.
Mmh.
Donc, même ceux qui sont contre les méthodes modernes ont la possibilité d'éviter la grossesse.
Voilà.
Nous ne sommes pas les animaux, nous sommes les gens créés avec l'intelligence, à l'image de Dieu,
mmh.
et c'est Dieu nous a donné tous les moyens possibles pour qu'on puisse différencier notre sexualité de la fécondité.
Voilà. Merci beaucoup, Dr Léon. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes intervenu d'Ekinshasa. Merci de nous avoir accordé de votre temps dans cette émission. Et là, nous allons à Lubumbashi. Eric, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour aussi à notre invité.
Voilà. Bonjour. Eric, s'il faut aller au-delà de tout ce qui a été proposé depuis le début de l'émission, venez de suivre aussi Dr Léon. Quelles sont vos idées à Lubumbashi pour parvenir à combattre cette pratique que nous déplorons dans cette émission?
Oui, merci M. Pierrot de m'avoir accordé la parole. Pour ajouter ou s'attirer à ce que mes précédents ont déjà dit,
mm-hmm.
il y a un problème de motivation du personnel soignant.
Mm-hmm.
M. Pierrot, imaginez-vous que j'ai des amis, je vous parle en tant qu'infirmier.
Voilà.
J'ai des amis qui travaillent dans des grandes structures sanitaires de la place,
mm-hmm.
mais qui vous touchent 30 000 francs à la fin du mois.
Mm-hmm.
Alors, il doit chaque fois payer le transport pour se rendre sur les lieux de service. Il a la femme, il a des enfants qu'il prend en charge.
Mm-hmm.
Alors, imaginez-vous que même indépendamment de sa propre volonté, un couple qui se présente avec 150 dollars, ne trouvez-vous pas que le personnel soignant est exposé aussi.
Mmh.
Le gouvernement doit prendre en charge le personnel soignant, surtout les infirmiers en particulier. La prime des risques, c'est tout un problème, c'est une casquette pour les infirmiers.
Mmh.
Alors, le deuxième problème, je dirais, s'il y a aussi la ville qui respecte mieux les périodes de fêtes, c'est la ville de Lubumbashi.
Mmh.
Alors, chaque fois qu'il y a des grandes fêtes, des grands événements, vous voyez sur la place de la Poste, beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui vont prendre la bière, parce que on va la bière, pendant la période de fête, on va un verre à 100 francs ou 150 francs. Alors, ils vont s'enivrer et ils ne savent plus se contrôler. Ils vont s'amener dans toutes les directions et ils sont aussi exposés à des grossesses involontaires.
Mmh.
Et un cas aussi que je tiens à soulever, nous devons aussi sensibiliser les couples sur la planification familiale.
Voilà.
Donc, c'est très important.
Merci.
Donc, dans les hôpitaux, il n'y a que la radio Capé qui fait ce travail.
Merci.
Alors, certaines chaînes de la place, c'est tout un problème. Raison pour laquelle je reste toujours attaché à cette chaîne qui nous amène toujours un plus sur ce que nous faisons.
Merci.
Vous rendez compte qu'il y a un couple qui vient devant vous, où nous avons déjà cet enfant, alors aidez-nous à évacuer.
Et là, donc, comme le personnel soignant a des difficultés financières, c'est comme Dr Léon a évoqué les problèmes de l'éthique. Hein. Merci beaucoup, Eric, de toutes ces précisions. Vous êtes à Lubumbashi où vous nous suivez sur 95.8 MHz. On va terminer cette série avec Abbé Henri qui est à Kananga, au Café Occidental. C'est bien d'ailleurs que nous avons un homme d'église dans l'émission. Monsieur l'Abbé, bonjour. Monsieur l'Abbé Henri, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, le temps que la réalisation récupère Abbé Henri, nous allons aussi donner la parole à notre invité après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Voilà, docteur Solange, en suivant les uns et les autres, je me rends compte qu'on relève un problème, le problème de l'information, comme vous l'avez dit, le problème de l'éducation sexuelle dans notre société qui est considérée comme un tabou, et il y a aussi le problème de l'éthique, comme l'a évoqué le docteur Léon. Et voilà, tous ces problèmes qui doivent en principe conjuguer les efforts. Mais à ce niveau-là, comment on peut coordonner tous ces efforts? Qui peut faire quoi pour qu'on arrive à des résultats? Parce que là, bon, chacun y va, on doit sensibiliser, mais ça va rester, entre guillemets, une sensibilisation. Mais qui doit faire quoi en principe pour qu'on arrive à un résultat?
Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un programme national de lutte contre les interruptions volontaires de grossesse, au programme national que l'on a aujourd'hui de la reproduction, ok. Et puis on doit mettre en œuvre un comment modèle qui va concerner tout le monde, tout le pays, ok. Et par là, on va chercher des acteurs qui pourront aller au niveau des familles, dans les écoles, au niveau des groupes d'action, des structures de lutte, tout ça, pour essayer de sensibiliser et parler. Il faut qu'il y ait un programme national qui doit être conçu par le ministère de la Santé.
Et je pense qu'il faut, aussi impliquer dans ce programme d'autres acteurs de la société, que ça ne soit pas considéré comme un problème uniquement des consignants.
Non, c'est un problème qui doit concerner tout le monde, les éducateurs, les psychologues, parce qu'on a vu que dans les conséquences, il n'y avait pas que la mort, il y avait certaines séquelles psychologiques qui pouvaient rester, il y avait d'autres problèmes de maternité, infertilité, tout ça. Donc, on doit y mettre tout le monde, les politiques, les personnels soignants, les journalistes, enfin, tout celui qui peut, à son niveau, lever le ton pour que la situation change. C'est l'affaire d'un peu tout le monde dans la société.
Vous avez suivi l'exemple d'Eric, il dit ceci: aujourd'hui, avec la précarité aussi des conditions de vie des corps soignants, ça les expose facilement à des pratiques comme ça, au cas où il est en difficulté, il a un couple qui arrive. Docteur Léon a parlé de l'éthique, mais cette éthique devant les conditions de vie difficiles, vous vous rendez compte aussi dans quelles conditions on place les corps soignants dans des cas comme ça?
Non, enfin, moi je pense que les motivations pécuniaires ne doivent pas être prises en compte. Et si je pense que le médecin, c'est un être qui est au-dessus de beaucoup de considérations. Donc c'est un monsieur qui a des principes. Nous faisons de la médecine avec des principes. Si on est aujourd'hui médecin dans ce pays où tout ne va pas bien, nous sommes mal payés et tout ça, mais nous sommes là, nous continuons à travailler, c'est parce qu'on a des principes, c'est parce qu'on veut aider, c'est parce qu'on veut promouvoir la vie. Je pense que ceux qui se laissent aller dans ce genre de pratiques et qui évoquent des raisons d'argent, je pense que non, c'est seulement c'est lié à la qualité de la personne. Il y a des gens qui sont sans morale, sans foi, sans éthique, ok. Et quand vous allez un peu loin, vous voyez que ces gens qui viennent avorter ne payent pas cher. Il y en a qui se font avorter pour 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs. Est-ce que c'est ça qui va réellement changer la vie de celui qui le pratique? Non, je pense que c'est un problème d'éthique, c'est un problème de morale personnelle, de décision personnelle, parce qu'on a vu des médecins démunis, mais qui ont refusé de pratiquer des avortements par principe. Ok, donc ça ne doit pas être une raison qui pousse des gens à le faire. Tout en sachant qu'on peut être arrêté, qu'on peut être réprimé sévèrement par la loi.
Monsieur Lebonry, vous êtes en ligne maintenant, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Café.
Voilà, nous sommes heureux de vous avoir en ligne comme homme d'église. Nous parlons de la lutte contre les avortements clandestins. Et vous, en tant qu'homme d'église, beaucoup de leaders ont évoqué depuis le début de cette émission qu'il faut beaucoup plus mettre l'accent sur la sensibilisation au sein de la famille, qui est la cellule de base. C'est la grande méthode que les gens ont pu évoquer pour lutter contre ces pratiques. Vous, en tant qu'homme de Dieu, quelles sont vos propositions pour lutter contre cette pratique?
Merci beaucoup, Pierrot, pour la question. Les maîtres de sœurs ont dit vrai, mais il ne suffit pas d'indiquer que c'est la famille qui doit être responsable, c'est vrai. Au-delà de cette famille, notre famille congolaise, avec tout ce qu'elle comporte comme crise à travers la gestion au quotidien, je voudrais qu'il faudra faire intervenir d'autres opérateurs dans la lutte contre l'avortement clandestin.
Mm-hmm.
Parce que actuellement, si vous constatez, la famille congolaise est muselée, elle est disloquée, elle est gaspillée. Parce que la plupart des parents n'ont pas un pouvoir, une ascendance sur leurs enfants. C'est ce qui fait que tout ce qui est présenté à la télévision est tout de suite consommé et les enfants ne sont pas très bien encadrés.
Mmh.
Bien sûr, au niveau de la famille, on ne doit plus faire de la sexualité un sujet tabou. Nous devons en parler dans nos églises. Dans nos églises, pour répondre à ce défi de l'heure. Apprendre aux enfants à l'école à se prendre en charge par rapport à leur développement physiologique,
mm-hmm.
parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Vulgariser les articles 16 et 61 de notre Constitution,
mm-hmm.
qui élève et consacre le caractère sacré de la vie.
Mm-hmm.
Donc, les enfants qui se permettent de se mettre ensemble, loin du regard de l'État, ils se retrouvent enceintes pour les filles et qu'ils vont s'arranger avec les médecins, avec les infirmiers. Ça, c'est une abomination, c'est coupable, c'est un meurtre, c'est un suicide.
Mm-hmm.
C'est pourquoi je voudrais peut-être que l'État puisse reprendre la Constitution en main et l'honorer à travers le respect de ses articles.
Mmh. Bon, mais au niveau de l'Église, comme vous avez dit, Monsieur l'Abbé, il faut que l'Église puisse s'impliquer. Bon, l'Église peut s'impliquer dans quel cadre? Parce qu'il y a des médecins qui sont intervenus pour parler des méthodes qui peuvent être utilisées, mais est-ce que l'Église va construire son intervention à quel niveau pour éviter que les influences extérieures, comme vous l'avez dit, qui entourent aujourd'hui la jeunesse, et même ceux qui sont déjà dans les couples, puissent ne plus avoir de l'influence sur l'individu? Comment on peut se construire aujourd'hui l'action concrète de l'Église sur cette matière?
L'Église, à travers sa doctrine sociale, prêche l'euthanasie. Bon, l'Église est contre l'euthanasie. L'euthanasie, ça signifie une interruption de la vie. Et dès que vous pouvez, ce n'est pas le sujet du jour, vous pouvez vous retrouver devant une personne âgée et vous trouvez que vous pouvez lui administrer des produits toxiques pour qu'il puisse aller vite vers sa mort. L'Église est contre l'euthanasie. Ça signifie, par contre, que l'Église élève la vie.
Mm-hmm.
Quelles que soient les conditions dans lesquelles la fille ou la femme a pu avoir la grossesse, l'Église voudrait que cette vie qui a commencé, qu'elle puisse être protégée et parce que c'est l'image de Dieu. La vie est sacrée.
Mmh.
La vie est sacrée. Et pour ce faire, à travers les établissements scolaires, nous insistons plus dans le cours de religion.
Mmh.
La vie, c'est un mystère. Dès que nous sommes là, nous sommes des mystères.
Mmh.
Et la Constitution vient renforcer justement le respect de cette vie qui est sacrée.
Mmh.
Nul, quelles que soient les conditions, n'a le droit de mettre fin à une vie. Et si nous retournons à la Bible, le prophète Jérémie dit, avant même sa naissance, je te connaissais. Voilà le projet de Dieu.
Voilà
le mystère de Dieu.
Mm-hmm.
Bon, on va nous permettre, tu sais, c'est pas les conditions de précarité
de
nos conditions économiques pour dire non, non, moi je n'appelle pas cet enfant, et puis il est déjà là, et puis je vais m'arranger avec un médecin, je vais m'arranger avec un infirmier ou une maman qui est dans les quartiers. Non, l'État doit ouvrir l'œil et le bon et punir tous ceux qui arrêtent loin de ton regard. Cette église. Je me rappelle que l'église s'est impliquée pour mettre fin et faire échec au protocole de Maputo, qui consacrait justement l'avortement légal. Heureusement qu'en parcourant notre constitution, nous nous sommes distingués. Et même dans nos cultures sur place, nous croyons à la vie, nous élevons la vie, nous avons le devoir de protéger la vie.
Merci, monsieur l'abbé Henri. Vous êtes à Tananga au Cassa occidental. On rentre ici à Kinshasa. Nous avons en ligne monsieur Kombo Ndeko. Vous, vous êtes le président de l'association des infirmiers du Congo, ANIC. Monsieur Kombo, au début de cette émission, en fait, les auditeurs ont évoqué aussi, ils nous ont dit que la pratique de ces avortements clandestins est plus aussi entre parenthèses, entre les mains de infirmiers, c'est la structure que vous dirigez. Alors, est-ce que vous vous rendez compte que dans la profession, les infirmiers sont, dans la plupart des temps, responsables des avortements clandestins?
Merci bien, monsieur le journaliste, pour la question. D'abord, mon nom, c'est pas Kombo, mais c'est Komba Djeko.
Komba Djeko, merci.
Je suis donc le président de l'Association nationale des infirmiers du Congo. J'ai suivi votre question et j'ai dit d'abord ceci en premier lieu. Ne pas infirmier toute personne qui porte une blouse blanche. Il faut qu'on fasse vraiment cette distinction-là, parce que ce n'est pas parce qu'on trouve quelquefois un écrit centre de santé, dispensaire, polyclinique, et quelqu'un porte une blouse blanche là-dedans, qu'il est nécessairement infirmier ou médecin. Ok, ça c'est une première chose. Deuxième chose, ceux qui pratiquent ces choses-là, je ne dis pas que les infirmiers ne les font pas, ils les font dans un but lucratif. Un centre de santé, un dispensaire, donc une structure de soins qui court derrière le bénéfice, ne peut que pratiquer les avortements pour faire de l'argent. Parce qu'un hôpital ne peut pas rapporter les bénéfices. C'est anormal. Donc, mais ceux qui veulent avoir de l'argent, ils vous disent non. Nous sommes une belle, alors ils ouvrent une polyclinique, un centre de santé, et ils pratiquent des avortements pour couvrir les charges. C'est pourquoi nous décourageons toujours, avant d'ouvrir une structure, qu'il s'agisse de formation ou de soins, il faut vous assurer que vous avez des moyens de faire fonctionner cette structure-là. Pas sur les dos du malade, pas sur les dos des parents ou des élèves ou des étudiants.
Voilà.
Hein, c'est ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Donc, je dis oui, les infirmiers pratiquent des avortements, c'est condamnable. Mais je dis aussi que ne pas infirmer toute personne qui porte une blouse blanche.
Voilà. Voilà. Mais au niveau de l'association, quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mener dans la corporation pour quand même décourager ces pratiques si jamais
nous partons de notre constitution, nous partons de nos valeurs humaines dans ce pays, et nous partons même de la profession. Au niveau du pays, la vie est sacrée. Donc nous ne pouvons pas comprendre. Il n'y a dans aucune faculté, dans aucun institut, on enseigne comment faire un avortement. Donc les enfants, ils ont compris la physiologie qui la transforme autrement et ils pratiquent. Donc ce ne sont pas des actes autorisés pour un infirmier de le faire. Donc nous continuons à sensibiliser le personnel infirmier pour le respect de la vie, qui ne pratique pas des avortements, et surtout qui n'apportent même pas leur concours à celui qui pratique l'avortement. C'est condamnable pour la profession. Si vous assistez quelqu'un en train de faire un avortement, vous lui donnez du matériel, vous favorisez, ou vous lui indiquez même là en pratique de l'avortement, par rapport à notre profession, c'est condamnable. Et nous continuons à vulgariser ces valeurs-là auprès des membres de la profession.
Merci beaucoup, M. Komba Djeko, de nous avoir donné votre point de vue dans cette émission. Vous êtes le président de l'Association nationale des infirmiers du Congo. On termine cette série avec Thomas, qui est en Moba au Katanga. Thomas, vous êtes en ligne, bonjour. Thomas, vous êtes en ligne? Voilà, comme Thomas...
Thierry Tanda, Thierry Tanda Nikasi.
C'est Yannick, oui, c'est Yannick Delicacy qui est en ligne. Yannick, on tend vers la fin de l'émission, vous avez suivi les uns et les autres. Quel conseil vous pouvez donner à la population Delicacy hein, pour éviter ces pratiques que nous avons déplorées depuis le début de cette émission?
Je me permets un peu de contrarier un peu ce que l'avis du président. Oui, je peux contrarier à un avis qui a été donné par un précédent.
Vous voulez contredire quelqu'un, oui, allez-y.
On a beaucoup mis l'accent sur les infirmières, soi-disant ce sont des personnes qui sont en train de faire le mieux possible et qui sont fréquentes dans les avocats. Mais ici, le cassier, j'aimerais un peu vous dire, il y a aussi des mamans qui n'ont pas appris la médecine, mais elles font le mieux possible pour avorter des petites filles.
Ça dit des mamans qui ont commencé, qui ont développé des substances et le mélange des herbes, elles donnent aux filles et les filles avortent, c'est ça?
Oui.
Et voilà, ça dit qu'il faut aussi faire l'action sur toutes ces personnes-là. Merci Yannick, vous êtes à l'ICACI. Madame Charlie de Kisangane dit ceci, pour lutter contre cette pratique, il faut punir les auteurs, sans oublier certaines mamans qui encouragent et accompagnent leurs filles à avorter. Voilà, c'est un problème aussi du travail au sein de la famille. Godefrey Bint, qui nous suit en ligne sur Internet à Kinshasa, dit ceci, pour moi, je pense que c'est un problème qu'il faut attaquer par les racines. Bien des parents aujourd'hui sont des missionnaires en tout. Si aujourd'hui, ils sont capable d'interdire leur fille de se prostituer pour cause pour manque de moyens, mais ils peuvent quand même les inculquer des notions d'utilisation de préservatifs, c'est ça la bonne solution parce que les filles ne sont pas maîtrisables suite aux situations financières qui comptent leur famille. Docteur Solange, vous avez la parole, on aura aussi à prendre les derniers auditeurs qui est en ligne.
Voilà, moi je dirais ceci, c'est vrai que les uns et les autres ont parlé, il y a un homme de l'église qui a parlé, il y a eu un médecin et tout, il y a aussi un
infirmier
qui a parlé, c'est vrai que tout le monde est de l'avis que l'avortement, l'interruption volontaire de la grossesse est un acte qui n'est pas bon, c'est un acte répressive, qui doit être réprimée. Donc tout le monde est de l'avis que la vie est sacrée. Hein? Ça, on ne l'oublie pas. Ce que moi je dirais, c'est deux choses. La grossesse, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Donc on doit agir sur les moyens de prévention, utiliser tout ce qu'il y a, tout ce qui est à notre pouvoir pour la prévention, c'est-à-dire éviter la grossesse. Et deuxièmement, même si l'on fait tout pour que la grossesse n'arrive pas, il peut y arriver quelques cas qui échappent et qu'il y a des grossesses. Et quand il y a grossesse, il faut accompagner la grossesse. Il faut aussi des moyens d'accompagner. Accompagner cette grossesse par l'information, par un soutien et tout ça. Donc, moi, je pense que ce sont les deux moyens les plus efficaces pour éviter les interruptions volontaires de grossesse qui amènent vers la mort, vers des cas désespérés.
Voilà, avant qu'on vous redonne la parole pour conclure l'émission, prénom Gaston, vous êtes les derniers auditeurs dans une minute et demie. Gaston, vous êtes ici à Kinshasa, on vous écoute.
Merci pour la parole, M. Chiro. Je réjouis que vous êtes les derniers. Pour moi, je vais aller juste au sujet. Je crois que nous devions plutôt débattre sur les préventions. Comment nous parvenons à voir ces grossesses-là? Parce que l'avortement, ce n'est qu'une conséquence. Moi, je ne voudrais pas qu'on parle de conséquences. Comment ces grossesses-là arrivent? Mais c'est toujours, en quelques minutes, je vais dire simplement que c'est le gouvernement que moi je prends comme premier responsable.
Comment?
Le gouvernement, moi, je le mets comme premier responsable.
Allez-y.
Et je vous dis, à partir de jour d'aujourd'hui, essayez de zapper les chaînes de radio, les chaînes de télévision. Il y a des émissions spéciales qui ne parlent de la sexualité. Pas comme éducation, mais comme amour, montrer l'importance, montrer les autres quoi avancer. Je vous dis, à un même moment donné, la chaîne nationale, la RTLC, j'ai dit à quelqu'un ça. Faites passer des émissions de sexualité et à des vieux, les enfants sont encore, ils ne dorment pas. Mais on donne quelque chose. Quand on parle, la politique se retrouve là-dedans. La politique doit donner de l'emploi aux jeunes. Quand quelqu'un est occupé, qu'elle soit fille ou garçon, il ne doit pas penser à passer son temps de visibilité. Un garçon qui quitte le matin sa maison, il va au travail, il rentre à 17h avec ses transports et tout ça. Il ne peut pas penser à passer 3 heures avec une fille. Donc on doit donner de l'emploi aux gens. Ça, c'est quelle est la raison que moi je demande. Si les jeunes sont occupés, ils ne prendront pas leur temps à aller s'amuser. Voilà ce que le bas lié les villages. Les gens manquent d'activité. Alors quand dans un village, dans un numéro, dans un parfum. Qu'est-ce qui arrive? Les sujets là, ils sont ensemble, ils passent le temps de s'amuser.
Voilà, merci Gaston. Bon. Merci Gaston, vous avez évoqué là la responsabilité de médias sur le programme qui sont diffusés les longueurs de journée sur les médias, parce que les jeunes, leur cerveau, sont bourrés de ces programmes de médias, et vous en appelez à la responsabilité du pouvoir politique, docteur Solange. Et nous sommes en train de terminer l'émission, mais du moins c'est très important parce que tous les auditeurs, ils ont compris la gravité du problème et chacun s'engage quand même qu'on puisse parvenir. Mais est-ce qu'on peut croire un jour que la situation peut s'améliorer?
Oui, tout à fait, pourquoi pas. Nous devons croire que ça peut changer si nous agissons.
Voilà.
On ne va pas rester là assis, bras croisés, dire, penser que ça va changer. Il faut agir. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prennent leur courage et qui descendent sur terrain pour travailler pour que les choses changent. Et ces hommes ne doivent pas se mettre des politiques, des médecins, mais c'est tout le monde.
C'est tout le monde.
C'est un travail aussi de la femme elle-même. Ok, c'est une prise de conscience de la femme, de la jeune fille. Je vous dirais que dans notre pays, dans notre ville, il y a eu des études qui ont montré que la fille perdait sa virginité à 8-9 ans. C'est quand même catastrophique. Ok, les premiers rapports sexuels à 9 ans, ça va pas. Hein, ça va pas. Donc, quand je dis que c'est la famille, c'est la cellule mère qui est la première structure de prévention, c'est vrai, parce qu'à 9 ans, l'enfant ne va pas aller à l'école, ne va pas aller à l'église. L'enfant est à la maison, ça arrive à la maison, parfois c'est un oncle, c'est un jeune de quartier qui le fait. Ok, donc ça doit commencer à la maison.
Mais, et aussi à la maison, vous avez suivi un auditeur qui a pensé qu'il fallait que les papas se mettent avec les garçons, la maman avec les filles. Est-ce que c'est comme ça ou c'est là?
Non, mais c'est un travail d'ensemble. J'ai dit que dans la grossesse, il n'y a pas que la femme. Il y a la femme et l'homme. Il y a les deux qui font ça. Donc, les deux parents doivent se mettre ensemble, tous les enfants ensemble, qu'il n'y ait pas de tabou. Il faut que la barrière de tabou soit bannie. Et autre chose que je veux signaler, dans la répression, il n'y a pas que celui qui commet l'acte qui doit être réprimandé, mais celui sur qui on l'a commis, celui qui a voulu, c'est-à-dire, et la fille, et le médecin, ou bien l'infirmier, la personne qui accompagne, et celui qui accompagne aussi.
Voilà.
Tous ces gens-là sont finis de la même façon.
Merci, docteur Solange Bondo, d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Au même moment, nous disons merci à tous les auditeurs des Radio Capi. On se retrouve demain vendredi pour parler sport. Vous savez que le dimanche 5 septembre, la RDC joue son premier match pour les comptes des éliminatoires Cannes 2012. On sera dans ce sujet avec les ministres des sports pour en parler avec vous. Quelle chance accordez-vous au Léopard pour se qualifier cette fois et jouer la phase finale de la compétition? Merci à tous. Au revoir. Passez d'agréables moments en compagnie de Radio Capi.